Ici la voix de la librairie Québec. Mon nom est Catherine Doré et je souhaite la bienvenue aux auditeurs de Radio Fiat Lux et à ceux de CKIA pour cette première édition de l'année 2014. En début d'année, il est de coutume de prendre des résolutions. Résolutions qui sont fréquemment de nature éthique ou disons esthétique. On veut prendre soin de sa santé, on veut maigrir, cesser de fumer ou de procrastiner, ou parfois même avoir une meilleure attitude envers les autres. Alors, par conséquent, ce soir, on va parler d'éthique et de morale. On commence à comprendre un petit peu tous que le 21e siècle soulève des questions qui vont demander de repenser peut-être une certaine morale. Alors, on va aborder quelques aspects de ces questions éthiques aujourd'hui. Olivier et Manu vont nous parler de Michel Foucault et de la réflexion qu'il a entamée vers la fin de sa vie sur le concept, justement, de éthique de soi ou de souci de soi. Ensuite, on va aborder la question de la responsabilité sociale des entreprises avec Antoine. Ça, c'est un sujet on ne peut plus au goût du jour au Québec depuis la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic l'été dernier, si vous vous souvenez. Finalement, Alain Deneau nous entretiendra de la notion de gouvernance et comment cette approche entrepreneuriale de l'État et de la société fait échec aux institutions démocratiques. On aura aussi une entrevue événement du mois avec Corner Paradis qui sera en spectacle à la librairie le 31 janvier prochain. Alors, si vous voulez bien, on va débuter comme on le fait à l'habitude par une pièce musicale. On va écouter un extrait de Polyphonie 10 du compositeur Pierre Boulez et on revient avec mes invités sur Foucault. À tout de suite. Thank you. C'était donc Polyphonie 10 de Pierre Boulez, si vous êtes encore avec nous. C'est une pièce un peu difficile. On a choisi cette pièce-là parce que Pierre Boulez a rencontré Michel Foucault alors que tous les deux enseignaient au Collège de France. Et c'est une rencontre que je trouve intéressante parce que Foucault a été identifié longtemps au mouvement structuraliste et Boulez au mouvement surréaliste. Alors, il y a quelque chose qui se rejoint dans ces deux...
Je connais beaucoup moins Boulez, je dois l'admettre, mais en ce qui a trait à Foucault, ce qui est très, très intéressant, c'est sa phobie des catégories, si je peux dire. Il s'est réclamé très brièvement du structuralisme, mais après ça, il l'a fui, ce nom-là qu'on lui avait donné. Et puis, c'est très, très cohérent avec le personnage aussi, avec son rapport problématique à l'identité, comment il a pu problématiser ce dont il va être question aujourd'hui avec l'éthique, le rapport à soi. Parce que Foucault, il y a une très belle phrase, c'est dans l'archéologie du savoir, où il va dire, bon, je paraphrase, là, « Ne me demandez pas de me définir et ne me demandez pas de rester de même. » Et puis, c'est peut-être ce qui fait la pertinence de Foucault aujourd'hui, c'est cette idée-là qui a pensé à nouveau frais le rapport à soi, ce qui n'avait pas été peut-être problématisé adéquatement précédemment. Je ne sais pas si je peux laisser mon collègue...
Oui, là, vous venez d'entendre la voix d'Emmanuel Gay. Bonjour Emmanuel. Emmanuel est étudiant en sociologie. Il s'intéresse beaucoup à Michel Foucault. Il y a Olivier Saint-Pierre aussi qui est avec nous ce soir, qui étudie en philosophie. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Et donc, ce soir, on va parler de Michel Foucault. On va en parler parce que en 2014, c'est le 30e anniversaire donc de la mort de Michel Foucault, et on se demande quelle est la pertinence de la pensée de Foucault pour nous aujourd'hui.
Ben, d'entrée de jeu, on peut dire que Foucault est clairement un auteur qui a, comme le soulignait Manu, amené à déconstruire plusieurs catégories de pensée, ouais. Foucault était un auteur qui était Vas-y, Manu.
Ouais. Eh bien, je pense que pour aborder la question de l'éthique chez Foucault ce soir, on pourrait souligner que c'est généralement classé dans le troisième et le dernier moment de sa pensée. Hein.
Oui, c'est ça. On connaît beaucoup Foucault pour ses écrits sur la folie, sur le système carcéral. Je pense que son célèbre « Surveiller et punir » est assez bien connu par les gens. C'était sous-titré d'ailleurs « Naissance de la prison hein. ». J'ai appris ça en faisant des recherches aujourd'hui. Et il a beaucoup étudié les relations de pouvoir entre l'État et l'individu. Effectivement, il s'est intéressé à la fin de sa vie, il s'est intéressé à l'éthique de soi.
Oui, c'est ça qui est très particulier, parce qu'on aurait pu penser que Foucault c'était un penseur qui ne s'intéressait pas à la question du sujet. Parce que, bon, comme vous le soulignez très bien, il était célèbre pour ses thèses comme « Le pouvoir est partout », il s'agit de l'analyser, d'établir des possibilités de résistance, stratégie de liberté, contre-pouvoir. Et puis, Foucault était atteint du sida, il se savait mourant. Et ce qui est intéressant, c'est que Foucault qui savait que sa vie allait finir prochainement, ça lui a permis de faire un retour sur lui-même, tu sais, en tant que théoricien aussi. Okay. Ce que beaucoup de personnes n'ont plus faire. On peut penser à Camus, par exemple. Bon, il est mort dans un accident de voiture.
Il n'a pas pu, effectivement, faire ce genre de bilan à un moment donné de vie.
Ben voilà, tu sais, alors que Foucault, en ayant anticipé un peu son décès, a pu...
Oui, du fait qu'il se savait malade, il savait que sa mort était proche.
Oui, voilà. Puis dans ses cours au Collège de France, qui ont pris un moment à être publiés, ça l'a permis de, en quelque sorte, poser une certaine cohérence dans l'œuvre de Foucault. Oui. C'était peut-être pas présenté jusqu'à maintenant. Il y avait des commentateurs qui comprenaient pas trop c'était quoi cette espèce de tournant vers le sujet à la fin de Foucault. Et puis là, on découvre peu à peu que la subjectivité permet en quelque sorte de penser la question de la vérité et la question du pouvoir. Et puis, c'est ce dont il va être question aujourd'hui avec mon collègue Oli, quand on va parler du souci de soi. Le souci de soi qui est abordé par Michel Foucault dans son cours du Collège de France qui s'appelle « L'herméneutique du sujet ».
L'herméneutique du sujet.
Oui, c'est 81-82, si je ne m'abuse. Okay. Et puis, la question du souci de soi, en fait, Foucault l'a développé en opposition à une forme de subjectivité qu'il considérait comme une des formes majeures de notre assujettissement, c'est celle de la confession. Je pense que ça vaut la peine de faire une brève parenthèse. Chez Foucault, il y a trois principales formes de pouvoir. Il y a l'exploitation économique, la domination politique et l'assujettissement identitaire. La question de l'exploitation et de la domination, qui sont respectivement économiques et politiques, ont déjà été abordées amplement par des théoriciens qui ont précédé Foucault, ses contemporains. Je pense que là où Foucault amène vraiment un souffle nouveau sur la pensée, c'est quand il va problématiser la question du rapport à soi, en ceci qu'elle permet en quelque sorte au pouvoir de se perpétuer. Et Foucault va soulever la question d'identifier le ressort subjectif de notre consentement au monde tel qu'il va. Et puis, ce qui fait qu'on accepte un ordre du monde particulier, c'est ultimement parce qu'on s'y reconnaît. C'est parce qu'on se la manière qu'on se définit, on emprunte nos modalités de définition de soi aux catégories du pouvoir. C'est un peu ce que Foucault va tenter de dépister dans son un des cours qui précédait l'herméneutique du sujet, dont le nom m'échappe traîtreusement. Il va parler de la confession, justement. Okay. Et puis,
mais quand on parle de confession, est-ce qu'on parle de confession dans un contexte catholique?
Entre autres. Mais Foucault va procéder d'un contexte chrétien, mais il va dire que ça se perpétue aussi dans la figure de la psychanalyse. C'est que la confession, c'est la production par le sujet d'un discours où il se donne à lire sa propre vérité. Fait que c'est une vérité qui est éminemment discursive. Il s'agit de parler de soi-même sans filtre, indéfiniment, pour parvenir à... Il y a quelqu'un qui va mettre en forme ce contenu-là et qui va parvenir à énoncer ce que nous sommes. On est un névrosé, on est un pêcheur, on est ci, on est ça. En fait, quand on nous appose des catégories qui nous circonscrivent et qui, en quelque sorte, dictent des pratiques conséquentes. Bon, il va falloir faire ci et ça pour venir à bout des problématiques qui vont avoir été identifiées à notre personne. Foucault propose le souci de soi en faisant un retour aux stoïciens. Parce que ce que permet le souci de soi comme forme de subjectivité, c'est d'inscrire la vérité sur soi-même, non pas dans un discours interminable, mais dans une pratique effective. Le souci de soi chez les stoïciens, c'est l'adéquation entre les idées et la pratique. C'est l'idée qu'on se pose des principes et à chaque jour, on s'assure de les suivre, d'être conforme aux objectifs qu'on s'est posés, à des grandes idées à laquelle on tente de correspondre le plus qu'on peut. Et puis, c'est ça, Foucault, dans l'herméneutique du sujet, va traiter d'un certain nombre d'exercices comme l'examen de soi-même, l'introspection.
Oui, ça me rappelle quand tu parles d'exercice, l'introspection et l'exercice sur soi. Il y a aussi Pierre Hadot, qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui est un spécialiste des philosophes antiques, des présocratiques, qui a aussi eu une correspondance avec Foucault durant ces dernières années sur ce concept-là de travail sur soi, travail de soi sur soi. Ça m'étonne extrêmement de voir de la manière dont Foucault a évolué dans sa pensée vers une pensée qui date de l'Antiquité. Oui, Olivier?
Ben, effectivement, Foucault, à la fin de sa carrière, quelque peu changer le cap. C'est-à-dire que c'était un penseur qui était éminemment critique, qui critiquait les institutions, à la limite, c'était même un historien à certains égards. Un penseur qui n'a jamais vraiment pris position explicitement, mais qui avait une pensée qui sous-tendait une certaine critique de la modernité. Comme tu l'avais mentionné, il a été associé au postmoderniste aussi. Étrangement, dans les derniers cours de sa vie, Foucault a effectué quelque chose comme un retour au grec.
Oui.
On était assez surpris de voir que Foucault a commencé à commenter les dialogues de Platon. Et dans le dernier cours, au Collège de France, le cours qui marque pour la fin de sa carrière, la fin de son enseignement et aussi la fin de sa vie, c'est en 84, l'année de sa mort.
En 84?
Oui, 84. Foucault s'est intéressé justement à Socrate, à la figure de Socrate, la figure, si on veut, emblématique du début de la philosophie. La raison à ça, c'est justement, c'est parce qu'à la suite de Nietzsche, Foucault s'est beaucoup intéressé à Nietzsche aussi, le pris comme modèle au niveau de la généalogie et tout ça. À la suite de Nietzsche, j'ai voulu questionner une certaine forme de vie philosophique qui était celle des Grecs, un éthos philosophique. C'est justement à travers la figure de Socrate et des cyniques. Cyniques qui menaient une existence philosophique, philosophes qui n'ont jamais écrit, qui va questionner certaines notions. Et à partir de ces notions-là, il va justement tenter de définir quelque chose comme une pensée éthique.
Ça, c'est intéressant parce que l'idée qu'on a du philosophe jusqu'à récemment, en tout cas pendant très longtemps, c'était un intellectuel un peu décroché qui lisait et qui réfléchissait sur les grandes questions de la vie, alors que les présocratiques et la manière dont Foucault abordait la philosophie et les thèmes à la fin de sa vie, c'est dans la manière de vivre. C'est dans le concret, là.
Effectivement, l'idée, en fait, il y a plusieurs concepts avec lesquels Foucault essaie de jouer, notamment le concept de la vraie vie, le concept du dire vrai de soi-même, dire vrai sur les autres et dire vrai aux autres aussi pour en arriver à se gouverner soi-même et gouverner les autres. C'est à partir de ces notions-là, puis à partir d'une relecture de Socrate, des dialogues platoniciens, que Foucault en vient à jouer avec ces notions-là. Est-ce que tu avais quelque chose à...
Oui, comme l'a souligné Oli, il y a un retour au grec aussi, mais je pense que ce qui est très très intéressant aussi chez Foucault, c'est que ce retour au grec-là, à la question de la vie bonne, tout comme Pierre Hadot va l'avoir abordé oui. dans « Qu'est-ce que la philosophie antique ?», elle demeure politisée et elle demeure cohérente avec ce que Foucault a tenté d'énoncer tout au long de sa vie. C'est-à-dire que ce qui va faire la portée politique peut-être du souci de soi ou du retour à un questionnement sur les pratiques concrètes, ça se symbolise notamment par un concept qui s'appelle la parésia en grec, dont l'équivalent français serait dire vrai ou franc-parler. Et puis, le parésia, c'est un concept qui est traditionnellement associé au cynique. Cynique qui s'inspire en quelque sorte de Socrate, si on peut dire. Mais c'est davantage des praticiens. Hein. Les cyniques n'ont pas laissé de documents écrits. Ce qu'on sait d'eux, ça a été rapporté par des contemporains. Et puis, ultimement, même s'ils avaient écrit les cyniques, on ne les lirait pas tant que ça parce que ce qui fait la force de leurs propos, c'est justement qu'il est tout à fait banal, mais qu'il se propose de le mettre en pratique et qu'en mettant en pratique ce qui est convenu par tous, l'idée d'une vraie vie, d'une vie qui se met à l'épreuve de la vérité, qui essaie de s'en tenir au nécessaire, eh bien, on réalise à quel point la vie telle qu'on la mène actuellement est fausse. Et puis, de soulever cette exigence de vérité-là, parce que c'est un courage de la vérité, la parésia. On dit la vérité au risque de déplaire, et c'est quelque chose qu'on peut faire encore aujourd'hui. On sait tous très pertinemment que la planète va mal, mais ça ne nous empêche pas de continuer à s'acheter des voitures qui consomment une quantité formidable d'essence.
Oui, tout à fait. Mais les gens se sentent très impuissants par rapport à certains constats éthiques aussi. Là. C'est que les gens peuvent être conscients que leur mode de vie et la consommation fait du mal à la planète, mais que peut-on faire d'autre? C'est souvent ce qu'on entend.
Eh bien, c'est ça. Foucault, peut-être pas beaucoup. Foucault donne davantage les outils pour critiquer qu'un programme à proprement parler.
Oui.
Mais je pense que ça peut être intéressant aussi. Ça s'applique au quotidien, cette idée-là qui est développée chez Foucault, que la vérité, c'est toujours une remise en question du réel. C'est une problématisation de ce qui apparaît comme allant de soi. Et puis, c'est une grille de lecture à partir de laquelle on peut, je pense, appréhender toute l'œuvre de Foucault. On peut revenir très tôt quand même, là, on pense à l'histoire de la folie à l'âge classique, l'idée du pouvoir, du sujet et de la vérité revient chez Foucault. Au fond, la grande thèse de Foucault dans l'histoire de la folie, c'est qu'est-ce que la folie en dernière instance, sinon le discours que la raison tient sur son contraire pour mieux le maîtriser. Et puis, ultimement, on donne, tu sais, il y a un corpus de savoir qui s'établit autour de l'idée qu'il y a des gens qui sont fous par l'entremise de la médecine, par l'entremise de la psychiatrie, de différentes formes.
Voilà, il y a toujours le contrôle des comportements. Là. On est toujours dans le contrôle du comportement pour que les gens deviennent conformes au système et qu'ils ne dérangent pas.
Mais en même temps, de dire que Foucault ne prescrit rien, ça serait peut-être en faire une lecture un peu de surface dans la mesure où j'ai l'impression, pour ma part, qu'avec la notion de souci de soi qui va chercher... de Socrate même, il va dire que la leçon primordiale de Socrate n'était peut-être pas finalement la notion du connais-toi toi-même, la leçon du connais-toi toi-même plutôt, mais bien celle du souci de soi. La preuve en est, va-t-il dire, les dernières paroles de Socrate avant de mourir furent de dire à son acolyte Criton, nous devons un coq à Esculape, à Asclépios, le dieu de la médecine, soucie-toi-en. Okay. Et moi, ce que j'en lis de cette chose-là, c'est que Foucault prescrirait quelque chose comme la philosophie, ou du moins la pensée, ou se soucier de sa pensée, se soucier de ce qu'on pense, se soucier de ne pas recevoir les idées d'ailleurs. Finalement, ce que Kant... d'ailleurs, Foucault fait une très belle lecture du texte « Qu'est-ce que les Lumières » de Kant, parce que Kant disait « ose penser par toi-même
».
Donc, cette pensée-là, finalement, c'est à mon sens ce que prescrirait Foucault.
Et ce serait ça, le souci de soi?
C'est de se soucier, effectivement, de ne pas nous laisser dicter quoi penser.
Oui.
Du moins, je pense que c'est de prime abord ce que Foucault dirait comme étant la base même de la philosophie, de la pensée critique.
Là, je vais faire un saut un petit peu dans les contenus parce que j'ai entendu dire que les idées de Foucault avaient donné naissance plus tard à la théorie du genre et aux théories queer, qu'il y aurait un lien entre ces deux pensées-là et que là, je ne vois pas immédiatement. Est-ce que vous pouvez me faire le...
OK. Bien, on a souvent accusé, si je peux faire une brève parenthèse avant de rentrer dans la question des théories queer genre, on accuse Foucault de pessimisme ou de nihilisme. Eh bien, je pense que chez Foucault, quand on lit bien, il y a un optimisme de principe. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est libre dans son rapport au pouvoir en dernière instance. Ce qui fait toute la pertinence d'étudier le pouvoir, c'est parce qu'on est capable de le contester. Sinon, ça serait juste un constat de ce qui est fatal. Et puis, quand on parle des théories queer, eh bien, s'est engagé directement dans les questions identitaires qui ont préoccupé Foucault toute sa vie. Le pouvoir ne s'exerce jamais aussi bien, selon Foucault, et je pense que c'est tout à fait pertinent de le souligner, que lorsqu'il est consenti par les sujets, lorsqu'ils ne le réalisent même pas, que c'est un pouvoir qui s'exerce sur eux, que c'est pris comme la force de l'évidence, quand ça apparaît comme une espèce de fatalité qu'on soit des hommes et des femmes et qu'on agisse conséquemment. Mm. Et puis, c'est cette espèce de délimitation très stricte des manières de comprendre le monde, d'agir, d'interagir, qui va être contesté par la théorie queer, comme les Judith Butler de ce monde, par exemple.
Oui, oui, oui.
Qui vont permettre de repenser cette espèce de partage imposé de ce que devrait être un homme et une femme, qui renvoie encore à des vérités universelles qui, selon Foucault, sont des masques du pouvoir.
Puis okay. Est-ce que Foucault lui-même allait aussi loin que ça?
Ben, effectivement, dans la pratique politique, si je peux dire, ben, Foucault a beaucoup milité pour... en ce qui a trait au mouvement homosexuel. Il disait lui-même, je ne me rappelle plus exactement c'est quoi le texte, mais il disait en tant qu'homosexuel, on devrait essayer de créer des nouvelles formes d'existence, des nouvelles formes de subjectivité, créer quelque chose comme une identité homosexuelle. Je ne pense pas qu'il prenait nécessairement les mêmes termes que Butler utilisait, mais quand même créer quelque chose comme une communauté, une forme d'existence qui, justement, c'est dans le même ordre d'idée que le souci de soi, c'est de justement ne pas laisser les autres nous dire qu'est-ce que nous sommes finalement. Puis c'est pour ça que l'éthique du souci de soi s'affirme comme étant une éthique de la résistance, dernière instance, de la résistance au pouvoir. Si le pouvoir crée la subjectivité, l'action, les paroles nous dictent ce que nous sommes, ben c'est dire que la subjectivité... que l'identité même peut être créée. C'est-à-dire que c'est ce qui nous montre qu'on peut la créer nous-mêmes, justement. C'est en ce sens-là que Foucault, selon moi, est quand même pas si pessimiste que ça, comme Manu l'a
Qu'on peut le dire. Ouais. Parce que ce sont des concepts qui sont très, très vastes et complexes, hein? La vérité, le courage de dire, etc.
Oui, ben, écoutez, je pense que Foucault, c'est un Nietzschéen conséquent. Hein. Il va dire que la vérité, c'est un produit. Et puis, ce qui fait que la vérité n'est pas simple, eh bien, c'est justement ce qui en fait toute la pertinence. C'est parce que c'est un... En fait, la vérité chez Foucault, c'est pas nécessairement une réponse, je pense, mais c'est davantage une question qui doit sans cesse être soulevée, de dire, est-ce que les choses ne pourraient pas être autrement? Il y a vraiment une intrication entre la vérité et l'altérité chez Foucault, qui en fait toute la pertinence aussi. Au fond, Foucault, c'est pas un théoricien de la révolution. Là. C'est pas une espèce de Marx pensé à nouveau frais. C'est plus un penseur de la révolte ininterrompue, du questionnement, mais d'un scepticisme intégral, je dirais, mais un scepticisme qui vaut la peine, pas cette espèce de prétendue pensée critique, des fois, là, qui se limite à simplement...
critiquer pour critiquer.
Oui, c'est ça. Ouais. Ou qui se limite à un certain registre d'objets, mais qui continue quand même à colporter des préjugés ou des espèces de fausses évidences, alors que Foucault nous invite à vraiment tout remettre en cause pour ultimement... Pour pas se laisser, en quelque sorte... Pas être pris au piège de la manière qu'on s'est construit nous-mêmes, de pas s'imposer à nous-mêmes des fatalités ou de pas tout simplement se soumettre à des entités... qui sont le produit de l'activité humaine, puis qui finissent par, en quelque sorte, la régenter. Là.
Il nous reste à peu près 2 minutes. Est-ce qu'on pourrait dire que Foucault nous montre la voie face aux problèmes, aux nouveaux problèmes éthiques qui sont soulevés en nous disant de revenir à la source philosophique des...
Je dirais du moins qu'il nous invite à penser autrement. À penser autrement, mais à penser la différence aussi. On peut peut-être dire qu'avec ce retour au fondement de la philosophie, on pourrait dire que Foucault invite à une lecture, à lire autrement aussi, à lire la tradition autrement, à pas en faire non plus, pas faire de la philosophie quelque chose comme une philosophie de salon.
Oui, c'est ça.
À mon sens, ça demeure quand même une philosophie éminemment pratique.
Oui. C'est une pensée de la pratique et c'est une pratique pensée, on peut dire.
Oui.
C'est peut-être ce qui avait été abandonné jusqu'à maintenant, là, pendant un bon bout de temps par la philosophie, qui préférait traiter du monde des idées que d'essayer de voir comment les idées réfèrent au monde concret. Là,
le travail de soi sur soi. C'est facile à dire, c'est peut-être moins facile à faire. Est-ce qu'il y a des lectures qui peuvent nous être suggérées pour avancer un petit peu plus dans cette...
Eh bien, il y a le cours herméneutique du sujet qui est donné par qui avait été donné par Foucault en 82-83, si je ne m'abuse, peut-être 81-82, qui est un ouvrage considérablement gros, mais qui se lit très bien. Les cours de Foucault sont beaucoup plus accessibles que ses ouvrages écrits, parce que bon, il y a quand
parce
même
que,
une,
oui, c'est pas facile à lire, hein.
Oui, ben c'est ça, ces ouvrages standards. Mais bon, souvent, l'oral a cet avantage-là que ça nous oblige à rendre le contenu plus accessible. Et puis, c'est ça, ça paraît. Là, et puis, ces cours sont préparés au quart de tour aussi. Là, donc, c'est vraiment très bien rédigé. On voit qu'il y a énormément de préparation. Là. Donc, il y aurait l'herméneutique du sujet qui est intéressante. En ce qui a trait aux théories queer, vraiment, l'ouvrage central, ça va être Trouble dans le genre de Judith Butler, auquel il s'agirait de s'attaquer pour comprendre... Un peu la base de cette remise en cause là, du fatalisme des identités genrées. Là.
C'est bon, on va devoir s'arrêter parce que le temps coule. C'était Emmanuel pardon, Gay et Olivier Saint-Pierre, étudiants en sociologie et en philosophie respectivement. On a parlé de Foucault. Merci beaucoup, vous deux.
Merci.
Merci beaucoup.
Alors, on va faire une pause musicale pour permettre à CKIA de faire ses indicatifs et sa publicité. On va revenir ensuite avec une pièce musicale de Félix Leclerc, « Attends-moi, petit gars ». Et on va parler ensuite de l'éthique des affaires en compagnie de Antoine Verret-Amelin. À tout de suite.
Au chevet de son lit, un jour l'homme célèbre aux portes des ténèbres appelle ses amis sur le point de mourir, quelques hontes surviennent. Je ne puis repartir avant que ne convienne un péché qui me gruge, vous en serez les juges. D'aussi loin que me souviennent, j'adorais avant tout qu'on m'encense et me loue, qu'on m'encense et me loue, et je suivis toujours ce penchant naturel sans chercher plus avant. Et que la vie est belle, inutile de feindre cette désinvolture qu'on s'efforçait de peindre n'était que de venture. L'acharnement seul, l'entêtement d'une meule me fit toujours atteindre mes victoires sans gêne, me fit parmi les hommes, m'élever jusqu'à gloire, me fit parmi les pommes devenir cette poire. Parapapapam, parapam, parapapapam, parapam, parapapam. Est-ce cette âpreté, cette folie des hauteurs qui fit de moi ce fou? Quand j'y songe, je pleure comme un paon dans sa robe, refusant les honneurs. Je me faisais si propre. Ah, l'or me lève le cœur. L'or me lève le cœur. Derrière moi se rangeait le petit, le grand peuple, et je le faisais rêver de l'impossible ailleurs, au parfaitement pur et paysage vierge, et paradis perdu en Sibérie, les cierges, et ces contes rendus où nous apparaissions, traqués ou héroïques, Balthazar et Loïc, dans un ravin profond, furent laissés pour mort. Lâcheté et remords m'attendaient-ils aux cieux pour me rappeler le crime, me tirer les cheveux? Non, de répondre une voix. Au sommet des plus hautes montagnes ou au creux des plus profondes gorges, nous voulions voir les cieux. Et le public disait quel courage sans bornes, ils affrontent les mornes carapaces du lait. Les déserts les plus froids et les plaines arides, traversés mille fois autant qu'étaient de rides. Sur le visage quoi du vieillard centenaire rencontré sur la terre de Baffin, rappelle-toi. Chaque fois que j'entends la pluie qui tombe, je pense que le ciel pleure. Ce que j'ai fait pleurer, j'espère que mes erreurs n'ont pas fait trop de mal. Et j'aimerais que mon cœur soit intersidéral. J'espère que mes erreurs n'ont pas fait trop de mal. Et j'espère que mon cœur est intersidéral. J'aimerais que mes erreurs n'aient pas fait trop de mal. Et j'espère que mon cœur est intersidéral. Sur les routes de cailloux, tiens. Les routes de cailloux, Balthazar, Loïc, putain. Putain.
La voisine arrive nous autres, pension d'avoir 12 enfants, pour changer son fusil d'épaule, depuis qu'elle en a autant. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Quand le patron te raconte que t'es adroit et gentil, sois sûr que t'es le migot qui fait marcher son bateau. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Il est joli, il est riche, il est poli. Mais une chose l'ennuie, c'est son valet, quel génie. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. L'argent est au bas de l'échelle et le talent part en haut. C'est pourquoi personne en haut, pourtant la vue est plus belle. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. que j'avais pas de manteau, j'ai pris la peau de mon chien. Tu vois qu'il n'y a pas plus salaud que moi qui chante ce refrain. Attends, moi, tigre, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Quand on me dit va à droite, c'est à gauche que je m'attelle. Aux enfers on rejette, on sort vers la tête au ciel. Attends-moi, tigre, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Couplet censuré. La veille des élections, il t'appelait son fiston. Le lendemain, comme de raison, il avait oublié ton nom. Attends-moi, tigre, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Quand monsieur le curé raconte que la paroisse est pleine d'impies, c'est pas à cause des péchés, c'est que les dîmes sont pas payées. Attends-moi, tigre, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou.
Alors, bonsoir à tous, chers auditeurs. Bonne année. Moi, je vous souhaite cette année de la chance, parce que tout en découle. Alors, oui, puisque la guerre a été... la paix a été faite dans le monde en 2013, je vous souhaite maintenant de la chance. Oui, je ne t'entends pas, Catherine. Je ne sais pas si c'est normal.
Oui.
C'est normal, OK. Alors, ma petite citation, elle est issue d'un des bouquins de Claude Frisoni, auteur, acteur, etc. C'est pas ce que je disais tantôt. Alors, ma petite citation, c'est « Les grands hommes sont soucieux d'éthique, les petits d'étiquette ». Voilà.
Merci, David. Vous avez bien reconnu David, notre libraire et notre hôte, qui vient toujours épicer avec une petite citation. Alors, on accueille maintenant Antoine. Antoine Verret-Hamelin, qui va nous parler d'éthique des affaires. Repenser l'éthique des affaires, Antoine. Moi, a priori, je vois ça difficile parce que le lien entre éthique et monde des affaires, ça me semble pas naturel.
Absolument. On dirait que c'est deux termes opposés.
D'ailleurs, on connaît le dicton, en affaires, il n'y a pas d'amis.
Il n'y a pas d'amis. Pas d'amis, pas de morale.
Comment on peut parler à ce moment-là d'éthique en affaires?
Mais en fait, je pense que justement, le point de départ, on doit être sceptique. Et moi, face à l'idée de responsabilité sociale des entreprises, je suis très critique, très sceptique, disons, dans la façon habituelle qu'on la comprend, cette idée. Et je crois que la première chose qui doit nous frapper, justement, quand on parle de responsabilité sociale des entreprises ou quand on se pose des questions d'éthique des affaires, c'est l'écart immense entre ce qui est dit et ce qui est fait dans le monde des entreprises. Vraiment, les exemples abondent de rapports de responsabilité sociale, de discours éthique, de discours d'action citoyenne, et que derrière le discours, en fait, les changements structurels, on ne les voit pas. Les changements profonds, réels, ils ne viennent pas. Moi, il y a un exemple que j'aime bien, c'est, on retourne au printemps 2013, H&M, la compagnie de vêtements, publie un rapport. H&M est supposément une entreprise assez avant-gardiste, publie un rapport par souci de transparence. Mm-hmm. Et dans ce rapport, affiche la liste de tous ses sous-traitants et de ses fournisseurs. Alors, la liste s'allonge, ça fait 1800 sous-traitants. Mais d'un même souffle, admet que 17% des sous-traitants, de ses fournisseurs, ne respectent pas la loi en vigueur dans le pays où ils entreprennent leurs activités. Okay. 17%, c'est vraiment minime. La loi en vigueur, notamment en termes de normes du travail.
Okay.
Et ce qui est assez ironique, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse, quelques semaines plus tard, il y avait la tragédie qu'on connaît, à savoir, au Bangladesh, l'immeuble qui s'est écroulé.
L'immeuble qui s'est écroulé sur les ouvriers.
Exactement. Et c'est bien de se rappeler que...
Et c'était un sous-traitant de H&M, j'imagine?
Pas de H&M, mais c'était des ateliers de confection de vêtements qui travaillaient pour des grandes compagnies de vêtements internationales.
Oui. Et depuis quand parle-t-on de responsabilité des entreprises, de responsabilité morale? Parce qu'il me semble que quand le capitalisme a commencé son histoire, il n'était pas question de responsabilité sociale des entreprises. Les premières mines qui ont été ouvertes en Angleterre, les gens mouraient dans les mines et personne ne s'énervait avec ça.
Non, mais en fait, probablement que le lien entre éthique et activité économique, on pourrait probablement le faire remonter à l'Antiquité. Mais la responsabilité sociale d'entreprise et le discours de l'éthique des affaires est, disons, très à la mode depuis les années 70-80.
C'est ça, c'est assez récent.
Absolument. Aux États-Unis, entre autres, on a commencé à parler de business ethics et certains auteurs, certains penseurs ont commencé à dire que ça pouvait être rentable de parler d'éthique. Alors, vraiment, on doit bien voir que c'est d'abord et avant tout une stratégie marketing.
Oui, oui, c'est, ce que ouais. C'est là où je m'en allais.
Il oui, oui. y a une étude vraiment fascinante, en fait, qui a été publiée à l'hiver 2013 par deux chercheurs, je crois, de la London School of Business de l'Université de Californie, qui montre qu'une entreprise privée, une fois qu'elle a adopté, disons, des lignes officielles ou un programme officiel en termes de responsabilité sociale, ensuite, elle est davantage encline à agir de manière irresponsable, comme si elle avait accumulé un capital éthique.
De sympathie. Là.
Exactement, oui, oui. Et qu'ensuite, elle pouvait se permettre n'importe quoi.
Okay.
Il y a deux exemples qui en disent long, c'est BP et Enron.
Oui.
Enron, avant de faire scandale avec ses histoires de fraude, avait adopté des mesures assez ambitieuses en termes de responsabilité sociale. Et même chose pour BP. Environ deux ans, si ma mémoire est bonne, deux ans avant qu'il y ait le déversement catastrophique dans le golfe du Mexique,
oui.
BP avait adopté des mesures exigeantes, contraignantes, ambitieuses en termes de normes du travail, de sécurité et de responsabilité.
Okay.
Alors, on voit bien que les entreprises privées, plus souvent qu'autrement, lorsqu'elles parlent de responsabilité sociale, d'action citoyenne, c'est surtout de l'éthique de vitrine. C'est du greenwashing.
Ben c'est évident. C'est évident. Mais est-ce que c'est un discours qui est venu des entreprises elles-mêmes ou ça a été fait sous la pression de certains États ou de certains gouvernements ou de la société? Cette mode, finalement, de commencer à parler d'éthique là, en affaires?
Je dirais que c'est venu probablement de plusieurs sources en même temps. Des entreprises, probablement aussi des ONG, et, oui, des gouvernements. Mais ce qu'il faut bien voir aussi, comment dire, dans notre diagnostic, on doit surtout dépasser le simple procès d'intention. Bon, comme je l'ai dit, je suis assez critique. Par contre, on ne doit pas se contenter de pointer du doigt les dirigeants d'entreprise et dire que ce sont des individus sans morale ou sans conscience sociale.
Oui.
On doit bien se pencher sur les raisons structurelles qui expliquent l'irresponsabilité sociale des entreprises. Et pour comprendre ces raisons, on doit regarder quel est l'environnement institutionnel des entreprises. Et leur environnement, c'est le marché.
Oui.
Et comme on le sait bien, le marché, c'est un environnement compétitif. Et le fait que ce soit un environnement compétitif, ça fait qu'on doit vraiment poser nos questions morales différemment. Entre autres, le fait que ce soit un environnement compétitif, ça fait en sorte que les entreprises sont très souvent coincées dans ce qu'on appelle des problèmes d'action collective. Un problème d'action collective, c'est quand chacun des agents concernés disons, poursuit ses intérêts, essaie de maximiser ses intérêts, mais le fait que l'ensemble des agents concernés adoptent ce comportement, ça crée une situation collectivement très désavantageuse. Par exemple, imaginons des compagnies de pêche. Chaque compagnie, évidemment, essaie de pêcher le plus possible. Le problème, c'est que si toutes les compagnies adoptent ce comportement maximisateur...
On va vider l'océan.
Exactement. On épuise les stocks de poissons. Et ça, c'est dans l'intérêt d'aucune des entreprises.
Non.
Alors, si elles sont un tantinet raisonnable, elles s'entendent sur une norme, sur des quotas de pêche.
Mais ce n'est pas une véritable morale ou une véritable éthique. Ça, c'est juste une question que si on veut continuer à faire de l'argent, il faut continuer à garder les ressources pour pouvoir continuer à faire de l'argent, finalement.
oui, peut-être. Mais c'est certain qu'il ne faut pas oublier que le moteur premier des entreprises, c'est l'intérêt.
Oui.
Et là, ensuite, on doit avoir une réflexion éthique, disons, bien adaptée à ce moteur premier.
Oui.
Mais comme je disais, le problème d'action collective, c'est une fois qu'ils ont adopté une norme, reste que chacune des entreprises aura intérêt à avoir un comportement opportuniste. Si les autres respectent la norme, coopèrent et permettent la préservation des stocks de poissons, par exemple, bien, moi, je vais pouvoir retourner à un comportement maximisateur et sans que les stocks de poissons soient épuisés parce que les autres coopèrent. Le problème, c'est que je ne suis pas le seul qui est rusé. Les autres compagnies sont tentées par le même comportement opportuniste.
Ouais.
Alors, vraiment, pour permettre de sortir du problème d'action collective, plus souvent qu'autrement, le meilleur moyen, c'est par une contrainte appliquée à l'ensemble des entreprises. Et l'acteur qui est en mesure d'appliquer une telle contrainte, imposer une telle règle, eh bien, c'est l'État.
C'est l'État, tout à fait.
Exactement.
Tout à fait.
Alors, c'est pour ça qu'à mon avis, si on veut entreprendre une réflexion sérieuse en éthique des affaires, on doit dépasser le simple point de vue éthique et adopter plutôt, favoriser un point de vue politique.
Oui.
Parce que l'État, pour les raisons que je viens de décrire, la régulation publique est plus efficiente que l'autorégulation des entreprises privées.
Oui. Mais en fait, ce n'est pas vraiment concevable de toute manière qu'une entreprise... une entreprise n'est pas morale. Ce n'est pas un être moral, une entreprise. C'est un être économique qui est là pour faire de l'argent. Donc, parler de responsabilité sociale des entreprises, ça doit être fait par l'extérieur de l'entreprise, pas par l'entreprise elle-même. Enfin, je vois pas comment une entreprise peut se préoccuper de...
Exactement, exactement. L'entreprise ne peut pas suivre des normes morales comme vous et moi,
oui,
on doit suivre
ça.
Des normes morales.
C'est ça, alors que l'État peut être un organe moral.
Exactement. L'État peut forcer les entreprises à agir de la bonne façon. Oui. Et à sortir de leurs problèmes, comme je disais, leurs problèmes d'action collective.
Mais c'est ça. Mais dans le cadre, justement, d'une économie mondialisée, comment les gouvernements peuvent avoir un impact?
Non, mais absolument. Là, vous mettez le doigt sur le bobo. C'est que l'approche politique que je mets de l'avant se bute, justement, au problème de la mondialisation. C'est que plusieurs me répondraient que, justement, l'État n'est plus en mesure d'imposer des normes,
oui,
aux entreprises.
De faire pression sur les entreprises.
Mais je crois que le défi de la mondialisation, même si ça représente, oui, un défi, peut être relevé. L'État national a plus d'un tour dans son sac. Moi, il y a un exemple que je trouve bien intéressant, c'est des lois nationales qui ont une application extraterritoriale.
Okay.
Aux États-Unis, il y a deux lois que je trouve qui ont beaucoup de potentiel, à mon avis. Cette première loi, c'est une loi nationale qui interdit à tout Américain de s'adonner à des activités de corruption envers les agents publics, quel que soit le pays où il se trouve.
Okay.
Et on sait qu'il y a plusieurs multinationales qui, dans certains pays où le gouvernement est plus ou moins démocratique, ne se gênent pas pour glisser des enveloppes brunes. Mais une telle loi, que l'Américain se retrouve...
On ne se gêne pas pour le faire ici. Alors. Je ne sais pas pourquoi on se gênerait pour le faire ailleurs.
Non, c'est vrai. Mais c'est assez impressionnant. Un Américain qui se retrouve au Pérou ou au Sri Lanka, s'il essaie de glisser une enveloppe brune à un agent public, peut être poursuivi en sol américain.
Ah oui?
Alors, c'est pas négligeable quand même. Et il y a une autre loi nationale, encore une fois américaine, qui est un peu le même principe, c'est si l'entreprise multinationale à l'étranger est complice de violations flagrantes des droits de l'homme, les victimes de cette violation des droits de l'homme peuvent poursuivre l'entreprise privée dans une cour de justice américaine. Alors, encore une fois, on voit que c'est pas vrai que l'État national est impuissant face aux poussées tentaculaires de la mondialisation.
OK. Si je comprends bien, Antoine, vous êtes optimiste. Quand vous pensez au futur.
Assez, oui, optimiste. Mais optimiste, dans une certaine mesure, c'est sûr que les lois nationales dont je viens de parler ne sauraient suffire. Je crois que pour être optimiste, on doit forcément se tourner vers les institutions politiques,
oui,
supranationales.
Parce que l'OMC n'a pas très bonne réputation. Hein?
Ah non, vraiment, ben, pas du tout, en fait. C'est une des choses qui devrait être à l'agenda, c'est de rééquilibrer les règles du commerce international.
Oui.
Parce que, entre autres, si plusieurs pays aux quatre coins du monde ont du mal à renforcer les droits de l'homme, c'est entre autres parce qu'ils n'en ont pas les moyens. S'ils n'en ont pas les moyens, c'est entre autres parce que les règles du commerce international sont très injustes,
oui,
parce qu'elles sont dictées par des organismes du genre, comme l'OMC, le FMI, etc. Alors, une première chose à faire, ce serait de rééquilibrer les règles du commerce international. Et une deuxième chose à faire, ça serait aussi de renforcer le pouvoir de contrainte de certaines des organisations internationales, comme je pense à l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Ce qu'on devrait faire, c'est insister pour que de tels organes soient un peu plus démocratiques et qu'ils aient un plus grand pouvoir de contrainte, justement pour pouvoir imposer certaines exigences minimales aux entreprises multinationales.
Et quand vous dites plus démocratique, ça veut dire de permettre à la société civile d'avoir son mot à dire dans ces grandes rencontres internationales-là?
Exactement. Son mot à dire, de quelle façon précise, bon, je ne sais pas, je laisse ce débat aux politologues, à savoir quelle manière précise démocratiser ce type d'organe, parce que forcément, ce ne sera peut-être pas le même type d'action démocratique que l'on retrouve au niveau national ou même au niveau municipal. Mais forcément, ces institutions supranationales se doivent d'être plus ouvertes à la délibération publique.
Parce qu'en ce moment, le seul moyen que les gens ont pour contester la manière de faire de l'OMC, c'est de faire des manifestations dans les pays où les gens se rencontrent. Mais ça ne semble pas être très, très efficace jusqu'à présent. Là.
Non, c'est vrai que les manifestations, étant donné qu'on se résigne à ce rôle de manifestant, parce que justement, ces institutions ne sont pas démocratiques, elles ne réussissent pas à faire avancer les choses autant qu'on le veut.
Mais il faudrait que ce soit nos gouvernants qui exigent... Ça.
À mon avis, oui.
Okay.
Ça passe par le politique. Et pour l'instant, ce type d'agence, que ce soit les agences de l'ONU ou l'OMC ou quoi que ce soit, sont rattachées aux gouvernements nationaux. Alors, notre premier rôle n'est pas tant celui du consommateur de l'agent économique qui demande une plus grande responsabilité sociale d'entreprise.
Oui.
Notre premier rôle est celui du citoyen,
okay,
qui doit faire pression sur le gouvernement pour qu'il y ait une démocratisation de ces agences transnationales.
Et que d'abord, ici, dans nos propres pays aussi, qu'on respecte l'éthique des entreprises, ce qui n'est pas toujours fait. On a vu ce qui s'est passé avec Mégantic, on voit ce qui se passe
Oui, absolument. L'exemple du lac mégantique est un bon exemple, mais il y en a tellement aussi. Il y a aussi Enron. Excusez-moi, Enron. Je vais dire Enbridge.
Enbridge. C'est ici, ça, là. C'est pas à l'étranger.
Oui, non, exact. Ou les compagnies minières, de quelle façon elles entrent en dialogue avec les communautés autochtones. Il y a tellement de situations où les entreprises privées font, comment dire, feignent une certaine responsabilité sociale. Mais ce qu'on doit demander, c'est que l'État, par voie démocratique, nous, les citoyens, par voie démocratique, on impose le cadre aux entreprises. On leur impose le cadre à l'intérieur duquel elles vont pouvoir poursuivre leurs activités. Ce n'est pas à l'entreprise elle-même de fixer la norme.
Non, mais non, c'est ça. C'est impensable.
Exactement. Et le discours de la responsabilité sociale des entreprises, à mon avis, c'est ce qui sous-entend que l'entreprise est responsable de fixer la norme.
Mais est-ce que les États peuvent encore avoir d'un impact sur l'économie une fois que l'économie est mondialisée? Je sais que c'est une question difficile, là, puis c'est une question que je me pose moi-même souvent. Est-ce que les États peuvent encore avoir de l'impact sur...
C'est une grande question, puis c'est sûr, selon toutes les apparences, l'État semble être en recul, mais à mon avis, ça, c'est je ne pourrais pas appuyer de long en large ce point de vue, mais c'est bien plus un discours idéologique qu'un impératif économique. L'idée que l'État, pour attirer du capital étranger, doit déréglementer, faire la belle vie aux entreprises, c'est bien plus un discours idéologique qu'un impératif économique. Un État pourrait, par exemple, si on le voulait, on pourrait imposer des normes plus contraignantes au niveau environnemental. Oui, probablement que les entreprises très polluantes vont quitter, peut-être.
Tout à fait, oui.
Mais on va développer une expertise pour ce qui est du commerce plus écolo et puis on va attirer un autre type d'entreprise. Mm. Alors, on ne doit pas penser que la déréglementation est un impératif catégorique.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. On va souhaiter d'avoir convaincu des gens ce soir.
Je l'espère.
Et de faire de la pression sur nos gouvernements pour que tout ça s'améliore. Merci beaucoup, Antoine.
Mais merci à vous.
Il y a David qui vient nous faire une dernière petite...
Oui, bien.
Citation avant qu'on passe à l'événement, à l'entrevue événement du mois. Oui, David.
Oui, bien, il y a Antoine qui me fait penser à ça en parlant d'intérêt personnel. Tantôt, je vous cite de mémoire un petit mot de Napoléon qui disait que deux seules choses motivaient les hommes à bouger, c'était l'intérêt personnel et la peur.
David a toujours le mot juste.
J'en fais une toute petite de Pierre Réverdier.
Oui, une toute petite.
L'éthique, c'est l'esthétique du dedans.
Ah ben là, je ne sais pas trop comment prendre ça.
Ben, on est beau à l'intérieur ou on n'est pas beau à l'intérieur.
Ah, OK.
Mais là, c'est très réducteur ce que je dis là.
Oui,
bon,
voilà. Je ne suis pas sûre de bien la comprendre.
Réfléchissez là-dessus. L'éthique, c'est l'esthétique du dedans.
Bon, on va mettre momentanément de côté notre thématique éthique et morale. On va faire notre entrevue événement du mois. On va accueillir Coroner Paradis. On va plonger donc dans l'univers poétique et on va écouter une pièce tirée de l'album L'amour au goulag et qui s'intitule « Merci pour la tendresse, je ne reviendrai plus ».
Braises et fruits, des bruits de baisers cendres dans les lits, t'offrant ce doux répit, fraises et cris, fin filet de silence dans la nuit, qui doucement fuit. Clocher ventre, les sonnets d'une langue, un abri en cette chaude chambre, plaies égales, le lot de nos vies, c'est ainsi que l'on capte le signal qui nous dit que tout n'est pas l'infini. Mais que c'est comme si, mais tout n'est pas fini. Mais que c'est comme si. Ça paye ma tête. C'est dimanche et Dieu sait qu'on s'ennuie sur tes hanches. Non, je ne passerai pas ma vie quand je bande. C'est parce que j'ai envie, et quand je débande, c'est que je ne t'aime plus, toi non plus. Tu ne m'aimes plus. C'est dommage, j'aimais donc ton image sur ma vie. Comme un collant de fête, je suis sale et conserve un secret que je déballe pas à n'importe qui. C'est ainsi que je ne suis pas ici, même si c'est comme si. Et je ne suis pas ici. Mais l'amour, comme de raison, se paye notre tête.
Bienvenue, Coroner Paradis.
Merci.
Alors, Mick, on se connaît un petit peu parce qu'on fréquente un petit peu la même librairie depuis quelques années. On attend impatiemment ton premier CD.
Oui.
Et on sait que tu fais de la musique, mais que tu écris beaucoup. Et moi, ben, la perception, en tout cas, que j'ai de toi, c'est davantage un poète qu'un chansonnier. Quoique tu fais de très bonnes pièces de musique, mais je te perçois comme un poète. Et je voulais te demander comment... C'est quoi être un poète en 2014? Pour toi?
C'est très ingrat. Je dirais en premier. Puis sinon, je pense pas qu'il y ait tant de différence.
Qu'avec les autres époques?
Non. Fondamentalement. Mais c'est clair qu'au niveau pratique.
On entend beaucoup dire qu'on vit dans un monde désenchanté, qu'on vit dans un monde matérialiste, que les gens s'intéressent uniquement à la consommation. Alors quand on s'intéresse à la vie, parce qu'un poète, ça s'intéresse à la vie.
Mm-hmm.
C'est comment on fait?
Ben, on survit. Tu vois ton beau sourire?
Oui, je vois ton beau sourire. Ça a l'air de quand même bien aller. C'est quoi tes influences? Comme poète, c'est quoi tes influences? Qu'est-ce qui te fait écrire?
Ben, l'amour, la révolte. L'amour, la révolte.
C'est un petit peu ce que les chansons disent aussi.
Oui.
Tu prépares un spectacle ici le 31 janvier.
Oui.
Tu peux me parler un petit peu de ce que vous allez nous présenter?
En fait, ça fait quand même presque un an que j'ai rien foutu. Non. Fait que c'est ça, c'est comme une petite résurrection. parce que j'ai des projets qui s'en viennent dont je ne peux parler pour l'instant dans l'année qui vient.
OK.
Fait que c'est un peu une façon de se remettre dans le bain de choses que j'avais délaissées depuis un certain temps. Donc, c'est des pièces qui datent d'un certain temps, qui sont sensiblement les mêmes pièces que j'ai faites dans mon dernier spectacle, sauf quelques nouvelles pièces.
C'était quand ton dernier spectacle?
Je ne m'en rappelle même plus. Je pense que c'était à l'Ajouté.
OK.
C'est ça. J'avais fait une première partie d'un artiste que je respecte beaucoup d'ailleurs, qui est de Kuna, à Québec.
Ah oui?
Et, c'était pas le dernier spectacle que j'ai fait.
OK.
Puis après ça, c'est ça. Fait que là, on s'en remet dans le bain, puis c'est ça. Je vais t'accompagner de mes fidèles comparses, Josette Lépine au piano.
Oui.
Françoise Lépine au violoncelle.
OK.
Alors, Claudia Garnier à la contrebasse. Puis d'autres personnes qui ne sont pas tout à fait confirmées, donc je vais m'abstenir de les nommer pour l'instant. Mais c'est ça. On va être accompagné. Ça va être un show d'une heure. Ça va être bien.
Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles chansons?
Quelques-unes, oui.
OK. Ouais. Et des anciennes?
Aussi.
Et puis le prochain CD, c'est pour quand?
Si tu as de l'argent à m'avancer, Catherine, ça me c'est une question d'argent tout le temps.
C'est vraiment juste une question d'argent.
C'est cher faire un album. Mais là, il y a un démo qui est disponible. J'avais enregistré 6 pièces en studio l'année passée qui sont disponibles sur cornerparadis.bandcamp.com.
Oui.
Puis on peut les télécharger pour la modique somme de 6 $.
Voilà.
Donc, c'est ça. Puis non, là, l'album, dans l'année qui vient, on a un projet d'album qui s'en vient. On travaille là-dessus. On a trouvé le réalisateur. Puis on y va lentement, mais sûrement.
Il semblerait qu'on peut faire des demandes de subventions. T'as-tu essayé de faire des demandes de subventions?
Oui, j'ai fait ça.
Oui?
Oui.
Bon, ben, coudonc. On a épuisé cette veine-là
ouais,
aussi.
Là, ça va. On va s'autoproduire, finalement.
Ben, c'est encore la meilleure solution. Donc, le 31 janvier, c'est à quelle heure?
20 h.
20 h à la librairie Saint-Jean-Baptiste?
Oui.
En compagnie des Sœurs Lépine?
Oui.
Tout le monde est invité. Merci beaucoup, Coroner Paradis.
Un plaisir.
On va terminer l'émission avec une entrevue que j'ai réalisée avec Alain Deneau en novembre dernier, lors de son passage à l'Université Laval. Comme vous le savez sans doute, Alain Deneau a écrit le livre « Noir Canada » qui lui a valu certains problèmes avec les minières canadiennes. Et depuis, il s'intéresse aux liens entre le pouvoir politique et le pouvoir économique. Il enseigne la philosophie à l'Université de Montréal. Il enseigne aussi à l'UQAM. Et nous avons parlé ensemble du concept de gouvernance. Alors, on va écouter, juste avant l'entrevue, on va écouter une pièce de Neil Young sur la gouvernance. Et vous voyez, je ne me souviens plus du titre de ma pièce. C'était « Looking a Leader for a Leader » de Neil Young. À tout de suite. We'll be right back.
L'utilisation, par la théorie de la gouvernance, du vocabulaire de la pensée politique comme les termes « citoyen » ou « démocratie » est l'entrée en matière habituelle. Du citoyen, on ne retiendra plus que son identité de partenaire au sens commercial. Alors, c'est tiré du livre « Gouvernance » écrit par M. Alain Deneau. Bonsoir, M. Deneau.
Bonsoir.
Qu'est-ce qu'on peut retenir, donc, de la pensée de bonne gouvernance suite à cet extrait?
Bien, le terme « gouvernance » est impressionnant de par la façon dont il s'est imposé dans le discours. On peut se rappeler que ce mot, à toute fin pratique, il y a 20 ans, 30 ans, n'existait pas. On ne l'utilisait pas, en tout cas, d'une manière courante. Et il s'est imposé, qui plus est, en se substituant au terme usité de la pensée politique. Jusqu'à maintenant, pendant des siècles, on s'est référé à un corpus traditionnel de la pensée politique pour penser l'ordre dans lequel on est.
Oui.
C'est-à-dire l'État, la démocratie, la citoyenneté, les classes sociales, le débat, les luttes. Bon, c'était des termes qui étaient, au fond, admis pour penser l'ordre social, quel que soit son parti pris, quant à la façon qu'on avait de croire que cette vie en communauté qui est la nôtre devait être organisée. Bon. Et cela relevait du débat politique. Ouais. Hein, la politique consistait dans une réflexion des membres d'une communauté sur la façon dont cette communauté-là doit s'organiser elle-même dans l'histoire.
Oui. Bon. Alors que le terme de gouvernance fait davantage appel à des notions de gestion.
Exactement. C'est-à-dire qu'on a, remplacé par le recours à ce mot, mais aussi à tout un corpus de termes, le vocabulaire politique par une terminologie managériale.
Oui.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plutôt que de parler de démocratie, on parle de gouvernance.
Oui, tout à fait.
Mais aussi, plutôt que de parler de citoyenneté, on parle de partie prenante. Ou de société civile plutôt que de population,
ou
toute une série de termes comme la responsabilité sociale des entreprises, l'acceptabilité sociale, le développement durable, la sécurité humaine, le partenariat, les intérêts au sens privé, les clients. Et donc, au fond, on a tout subordonné à l'approche privée, comme si notre monde n'était plus à penser que comme celui d'une vaste entreprise.
Tout à fait. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que c'est le capital... Est-ce que c'est le développement normal du capitalisme? Est-ce que c'est... Comment on est arrivé à ce que le langage économique envahisse, dans le fond, la sphère politique à ce point-là?
C'est vraiment le langage des organisations privées, plus que celui de l'économie, au sens où on pourrait être, au fond, dans un ordre économique qui soit d'ordre collectiviste, d'ordre social, d'ordre dire X ou Y. Il faut voir que le terme gouvernance est tombé complètement dans l'oubli à la fin du Moyen-Âge. C'est un terme relevant du vieux français. Et on l'a, au fond, ressuscité dans le domaine des théories de l'organisation privée dans le monde anglophone, à partir des années 50-60, parce qu'on s'est retrouvé face à des grands groupes commerciaux et industriels qui avaient en leur sein un personnel constituant pratiquement des villes, des milliers d'employés, avec des actionnaires nombreux, des gestionnaires, qui tous, au fond, avaient à définir quel était le pouvoir qui leur revenait. Et donc, on a développé, au titre de la gouvernance, qui est un terme assez pompeux, ma foi, une réflexion sur la répartition des pouvoirs à l'intérieur d'une organisation privée, un peu comme le fait une constitution dans un État. Donc, au fond, quel est le pouvoir qui revient aux actionnaires, quel est le pouvoir qui revient aux organisations, et ainsi de suite. Et jusqu'alors, il n'y a pas tellement de problèmes. Le problème se pose davantage lorsque ce terme, au fond, repris dans le domaine de la gestion privée, apparaît dans le domaine politique sous le gouvernement de Margaret Thatcher dans les années 70-80, et ensuite à la Banque mondiale, et ensuite dans les universités, et ensuite dans les syndicats, et ensuite dans le monde communautaire, pour un petit peu désigner ce qui est de l'ordre finalement de l'organisation de toute chose, c'est-à-dire de structures, d'entités diverses, mais aussi de l'organisation du monde lui-même. Hein. Et là, on s'est mis à parler de gouvernance pour désigner, au fond, ce qui se passait dans des groupes écologistes, de gouvernance pour parler de la façon dont on allait aménager un territoire, de gouvernance pour parler du traitement de l'eau, de gouvernance pour penser la façon dont on allait exploiter ou non des richesses naturelles, de gouvernance pour penser les relations nord-sud. Et ce mot-là, qu'est-ce qu'il fait, au fond? Il nous fait oublier la politique. Il fait comme si tout était strictement affaire de gestion, de problem solving, comme on dirait, dans ces milieux, mais jamais d'enjeu politique, à savoir que la politique consiste en un débat pour savoir quels sont les principes qui président aux décisions de type gestionnaire.
Oui.
La gestion, par définition, elle est subordonnée à la politique.
Oui.
Je me permets un dernier raisonnement, c'est très clair dans les régimes républicains. La présidence d'une république a pour mandat de faire valoir une politique. On délibère sur les principes qui vont faire en sorte qu'ensuite, quand viendra le temps, dans un deuxième temps, de gérer ce qu'il en est des anciens combattants, de la voirie, de la culture, des écoles, des hôpitaux, des programmes sociaux, on aura délibéré sur le principe qui fait qu'il y a une cohérence dans l'activité gouvernementale. Mais aujourd'hui, on fait comme si ces principes-là n'étaient plus sujets à débat, parce qu'au fond, ce qu'on induit implicitement, c'est que l'ordre néolibéral dans lequel on est ne mérite pas discussion tellement il est naturel, et tout ce qui reste à faire, c'est de gérer, c'est de savoir finalement lequel ou laquelle est la mieux placée pour faire la job. et on n'en est plus que là, et on a en quelque sorte complètement dissous la politique dans le discours managérial.
On revient fréquemment à cette fameuse période des années 80 et du gouvernement Thatcher pour désigner les dérives qui ont eu lieu dans tout le système économique et dans le système de la finance en particulier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la déréglementation des marchés. C'est qu'est-ce qui s'est passé pour que l'ensemble des pays occidentaux semble s'être entendu pour faire cette déréglementation-là?
Je donnerais un élément de réflexion parce que c'est une vaste question.
Oui.
Et c'est même une énigme.
Hein? Oui.
Comment on a pu, à ce point, abandonner les acquis que nous nous étions difficilement accordés dans l'histoire, nous, peuples occidentaux.
C'est comme si on avait retiré aux politiques, à la sphère politique, ses pouvoirs pour les confier justement aux dirigeants de grandes organisations.
Faisons un peu d'histoire. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe est en ruine. Les États-Unis sont dans un rapport de force économique, industriel, financier fort avantageux. Et donc, ils mettent sur pied le plan Marshall, qui consiste à arroser de milliards de dollars états-uniens l'Europe et l'Asie. Bon, en Europe, on parle de 14 milliards de dollars en 1948, c'est énorme. Donc, des capitaux libellés en dollars américains se trouvent à circuler massivement en Europe. C'est ce qu'on appelle les euro-dollars. Ces capitaux-là ne coûtent rien aux États-Unis dans la mesure où ils ne sont pas injectés dans leur marché intérieur, mais dans un marché voisin. Et c'est la première fois dans l'histoire que des États se trouvent, au fond, à brasser des capitaux qui ne sont pas libellés dans leur propre devise. Et après avoir, au fond, je veux dire, stimuler l'économie pour permettre, au fond, ce qu'est une économie, c'est-à-dire la mise en œuvre d'efforts, de biens, de ressources pour collectiviser d'une façon ou d'une autre un travail. Et après que donc ces fonds-là aient permis la reconstruction relative de l'Europe, ils se sont trouvés, au fond, comme plus-value, concentrés à Londres, puisque, là, je vais vite, mais à la City de Londres, qui est un périmètre constitué de banques dans la capitale britannique, se trouve un grand nombre de banques d'investissement. Et donc, pour la première fois de l'histoire, comme je le disais, on s'est trouvé à gérer des capitaux libellés dans une devise autre que celle du pays, et c'est ce qu'on a appelé la planète financière.
Oui, c'est ça.
On s'est retrouvé avec des capitaux qui, au fond, n'étaient contrôlés par personne, parce que c'était un dollar américain que les Américains ne voulaient surtout pas récupérer parce que ça aurait créé une vague inflationniste chez eux que d'avoir ces milliards de dollars en surplus. Alors, on les a laissés, au fond, d'une manière volatile, circuler sur la planète. Et c'est cette manne de l'art américain a largement profité à l'essor de ce qu'on a appelé les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux qui sont ces petites îles, ces principautés d'opérettes, ces micro-États qui ont servi d'assises à des banques, à des grandes industries qui voulaient, au fond, développer des activités indépendamment des contraintes en vigueur dans les États de droit. Donc, aux îles Caïmans, aux Bahamas, à Jersey, à l'île de Man, au Luxembourg, au Liechtenstein, en Suisse, à Monaco, à Andorre, et puis en Asie même, aux îles Marshall ou à Singapour, on a développé des pôles financiers extrêmement importants du point de vue des capitaux qu'ils arrivaient à concentrer et à faire circuler, qui permettait une activité de type industriel, financière et économique qui s'affranchissait du contrôle des États de droit. Alors, les États se sont trouvés finalement face à des investisseurs qu'ils n'encadraient plus et qu'ils devaient même attirer et donc séduire. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a aménagé les États à la manière des entreprises. On s'est dit, les États doivent au fond s'inspirer des entreprises, être efficaces, dépenser moins, investir moins dans les programmes sociaux, de façon à séduire des investisseurs qui, eux, arriveraient, si on arrivait à les attirer convenablement, dans les États, que ce soit le Ghana, le Québec, l'Indonésie ou le Brésil, arriveraient sur un tapis rouge en se faisant offrir, au fond, des avantages législatifs, des avantages fiscaux, des avantages réglementaires et un dumping vers le moins-disant.
Et ça a tellement bien fonctionné, en fait, cette logique-là, que moi, j'ai souvent le sentiment que ça fait partie de la doxa, que la plupart des gens considèrent que la bonne gouvernance, c'est le rôle des États et qu'il n'y en a pas d'autre.
Que les États ne sont plus, au fond, que des polices d'assurance qui... Non, en fait, les États sont devenus, dans cette doxa dont vous parlez, d'une part, les huissiers, non pas d'un État de droit, mais d'un État du droit. C'est-à-dire les huissiers qui gèrent un droit qui n'est plus qu'un droit commercial, qui n'est plus qu'un droit qui permet, pour les uns, l'enrichissement illimité au détriment des autres. Et les États sont de l'espèce de caution judiciaire de cette disproportion des richesses qui va toujours s'accroître. D'une part. D'autre part, les chefs d'État sont devenus, face à ces investisseurs devenus souverains, qui inscrivent leurs actifs dans des paradis fiscaux, des législations de complaisance, comme des ports francs, des zones franches, comme le Panama, le Libéria, la Jamaïque, Haïti, qui sont des endroits qui leur permettent de mener toute forme d'opération sans aucune contrainte, sans les contraintes que nous nous sommes données comme civilisation dans nos États de droit dans l'histoire. Donc, ces acteurs qui sont souverains voient les chefs d'État des États traditionnels finalement devenir des courtiers qui vendent des avantages juridictionnels à ces investisseurs devenus souverains. C'est-à-dire qu'on leur dit, dans le cas du Québec, par exemple, venez chez nous, pillez le territoire, accédez aux richesses sans contrainte, reconnaissez notre droit tacite à polluer, nous allons financer votre création de main-d'œuvre, nous allons financer la recherche et le développement, nous allons demander à vos futurs géologues et à vos futurs employés de payer eux-mêmes leurs études qui sont pourtant menées sur mesure pour vos intérêts. Nous allons soigner ce personnel, vous n'aurez même pas à vous soucier de cet aspect des choses. Vous aurez accès à un système routier qui vous mène à bon port, vous aurez accès à l'aqueduc, vous aurez accès à l'électricité, vous aurez accès à 4 aéroports, des universités, ainsi de suite. Et dans 15-20 ans, vous nous laisserez un paysage dévasté et on fera semblant d'être surpris. C'est un peu la rhétorique qui est en cause et on a effectivement totalement intégré ça sous prétexte que cela est bon pour l'emploi et je ne sais trop quel fétiche.
C'est très rare qu'on entende des voix discordantes dans ce discours-là. Et même dans les journaux, même dans les... Parce qu'en fait, dans ce paysage politique et économique où c'est la bonne gouvernance donc qui règne comme étant la bonne manière de fonctionner, quelle place ou quel rôle est échu à la société civile?
La société civile, déjà, fait partie de la gouvernance. C'est-à-dire qu'au fond, quand on parle de société civile, on a complètement oublié cette notion fondamentale qui est celle du peuple, qui est celle du bien commun, qui est celle de la chose publique, qui est celle aussi des populations. Quand on parle de société civile, déjà, on pense à une population qui est déjà organisée d'une manière comestible par les gestionnaires. Au fond, la société civile, qu'est-ce que c'est? C'est un agrégat d'associations défendant des intérêts privés. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que, et au fond, la gouvernance, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de préconiser un art de la gestion de la vie en collectivité sur la base des rapports inégaux. Et c'est une grande différence entre la gouvernance et la politique, c'est que la gouvernance préconise l'inégalité comme une prémisse, en disant, ben, nous sommes tous inégaux, c'est normal, la vie, ainsi va la vie. Et au fond, la gouvernance, qu'est-ce que c'est? C'est une orchestration des intérêts entre acteurs puissants et acteurs faibles. Mais la société civile, c'est la part faible, hein, de la population.
On entend même souvent le discours, on entend souvent même dire que l'égalité et la liberté ne peuvent pas aller de pair.
Ben, en fait, ce qu'on
que
dit,
pour avoir la liberté, il faut être inégaux.
Dans l'ordre de la gouvernance, parce que pour écrire ce livre « Gouvernance, le management totalitaire », je me suis intéressé aux textes fondamentaux qui défendent le principe de la gouvernance. Il est très clair, ici ou là, dans les écrits qui se veulent fondamentaux, que la gouvernance consiste en une façon de mettre en relation des représentants de groupes sociaux très différents en tant qu'ils doivent trouver un consensus.
Ah oui,
et la bonne gouvernance consiste en le choix méticuleux des acteurs représentant, souvent sans légitimité, telle ou telle partie de la population pour qu'au nom de ces groupes sociologiquement déterminés, on ne sait par qui et comment, on en vienne à une sorte de juste milieu. Mais il faut voir que le juste milieu, il est entre des acteurs que l'on présente comme étant inégaux. Donc il s'agit forcément d'un injuste milieu. Puisque quand on trouve un compromis entre Monsanto et des écologistes d'un village, entre Rio Tinto Alcan et des communautés relevant des Premières Nations ou des communautés qui sont aux abords d'un site minier, sans parler de quelques maires ou quelques élus locaux. Quand on met en relation des acteurs qui ne sont pas illégaux sur la base d'un programme commercial élaboré par la partie la plus puissante, bien évidemment que tout ce qu'on arrivera à faire, c'est une série de compromis qu'on appellera abusivement un consensus sur des mesures qui sont marginales. Et même, on dira même explicitement dans certains textes qu'on confie aux plus faibles des enjeux de plus faibles, du genre quelle route on va asphalter, comment on va gérer un budget communautaire de quelques dollars, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en fait, ce qu'on comprend, c'est que la gouvernance dissout la politique dans un strict art de la gestion qui convient à un rapport de force favorisant les plus forts.
Et dans des circonstances pareilles, est-ce qu'on peut encore dire qu'il y a contrat social entre la population et le gouvernement?
Non, parce que enfin, le contrat social, c'est une histoire, c'est une fable. Hein? C'est-à-dire, il n'y a pas eu de contrat social quand on lit Jean-Jacques Rousseau, par exemple.
C'est une idée.
C'est une idée, mais c'est une fable, c'est ce qu'on appelle un conte philosophique qui est tout à fait légitime. Au fond,
on peut y aspirer.
Tous les peuples se racontent des histoires.
Ouais.
Hein? C'est en se racontant des histoires qu'on se constitue comme civilisation. Donc, et le contrat social, au fond, c'est l'histoire d'une abdication de pouvoir de citoyen pour arriver à quitter l'état de nature, c'est-à-dire à quitter la loi de la jungle, c'est-à-dire à quitter cet état où on est tous une menace pour chacun,
c'est ça.
À se donner des règles en société
pour le vivre
ensemble.
Voilà.
C'est ça, et des règles qui prévalent de la même façon pour tous. La gouvernance, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rompt avec les paradis fiscaux. Ce qu'ils font, c'est qu'ils rompent avec cette, disons, organisation intellectuelle de la vie en collectivité, pour plutôt dire que désormais tout est à négocier entre des acteurs qui ne sont pas structurés par une instance tierce, que serait l'État par exemple, mais au contraire qui ne sont qu'eux-mêmes représentants que de leurs seuls intérêts, et il leur revient de négocier au fond sur la base de leurs intérêts propres des ententes avec des acteurs plus forts, en essayant de greffer au fond leurs intérêts mineurs sur des intérêts majeurs, quoi, et essayer de faire en sorte que dans cette espèce de contractualisation heureuse qui nous est présentée comme telle d'une manière ô combien idéologique, nous arriverions à des consensus radieux au fond qui feraient l'affaire de tout le monde, alors qu'il s'agit quand même de faire avaler la pilule aux plus faibles quand il s'agit des projets des plus forts.
En terminant, si on pense aux défis qui se posent à l'Occident au 21e siècle, comment on pourrait formuler ça en termes politiques, éthiques? Quels seraient les défis auxquels on doit répondre?
Deux choses, d'abord et avant tout, et je ne m'éloigne pas du contrat social là, comme référence, cesser de se considérer des individus. L'idée que nous ne sommes que des individus relève d'une orchestration idéologique collective. C'est qu'on se fait dire dans un ordre managérial qui est le nôtre, que nous ne serions que des individus, alors qu'on sait que l'histoire a toujours été l'œuvre de sujets collectifs. Mmh. Souvent des sujets collectifs minoritaires, mais des sujets collectifs minoritaires qui étaient suffisamment intenses pour valoir à titre de peuple. C'est ce qui s'est passé en 2011-2012 dans Main Pays du Monde, qui, ensemble, ont revendiqué des droits communs, collectifs, public. C'est la même chose qui s'est passée en 1968 dans 20 pays du monde. C'est ce qui s'est passé en 1848. C'est ce qui s'est passé à certains moments de l'histoire qui sont des grands crus, quand des peuples se sont, au fond, affirmés comme sujets collectifs, requérant un certain nombre de droits pour la collectivité au nom du bien commun. Donc, c'est la première chose. Et en ce qui concerne les paradis fiscaux, il s'agit de faire en sorte que tous les acteurs de la vie publique, que ce soit des infirmières, des médecins qui croient à la santé publique, des artistes, des étudiants, des chômeurs, des gens qui croient en l'économie locale, que tous ces gens inscrivent la question des paradis fiscaux dans leur plateforme de revendication quand ils ont à s'organiser comme groupe social, étant donné que les paradis fiscaux sont ces pays qui ponctionnent l'argent des plus puissants de façon à ce qu'ils évitent le fisc et de façon à ce qu'ils...
Ils dépossèdent la population de leurs biens.
Et enfin, en bout de course, ce sont eux, les paradis fiscaux, qui expliquent que les États nous diront toujours qu'ils n'ont pas assez d'argent pour la culture, pas assez d'argent pour la voirie, pas assez d'argent pour l'économie locale, pas assez d'argent pour l'éducation, pas assez d'argent pour la santé, pas assez d'argent pour les programmes sociaux. Mais toujours plus de moyens pour satisfaire un capital qui est pourtant très, très gras. Et l'idée, c'est d'inscrire la question des paradis fiscaux au titre des revendications quand il s'agit d'exiger d'un gouvernement, non pas qu'il donne de l'argent à tel ou tel secteur, mais qu'il aille chercher les revenus pour avoir les moyens de donner de l'argent. On en est là aujourd'hui.
J'aime beaucoup aussi quelques secondes pour rappeler cette idée de cesser de défendre l'idée d'individu. Peut-être revenir à la notion de personne, alors.
À la
une
notion de
peuple. Une communauté constituée de personnes.
De peuple. C'est-à-dire que dans l'histoire, ce sont des sujets collectifs qui font bouger les choses. Quand des gens se rendent à une manifestation, c'est le peuple, c'est un sujet collectif qui se donne rendez-vous à lui-même. Pourquoi quelqu'un s'inscrit dans une lutte qui serait celle du mouvement Occupy, par exemple? C'est pas un individu qui prend la décision. C'est quelqu'un qui sait qu'il va quelque part parce que d'autres y vont aussi, que c'est comme sujet collectif qui se constitue une voix, qui est celle d'un groupe qui sait qu'il y a des choses qui sont en commun ici. L'air est une chose commune, l'eau est une chose commune, le territoire est une chose commune, la culture, la langue, la philosophie sont des choses communes, l'État est une chose commune, et nous devrions en quelque sorte revenir à ces notions de partage qui sont constitutives même de notre vie en collectivité, plutôt que de penser que nous sommes en quelque sorte des individus atomisés avec des cartes de crédit puis des relevés de compte bancaire comme si, et puis des circulaires de pharmacie, comme si ce n'était plus que ça qui nous définissait.
C'est ce qu'on va se souhaiter pour les prochaines années, en tout cas pour quelque part au 21e siècle.
Oui.
Merci, M. Alain Deneau.
Merci.
Alors, une petite dernière citation de notre ami Wittgenstein, tirée du Tractatus Philosophicus.
Oh, bonsoir.
Alors, il doit y avoir, en vérité, une espèce de châtiment et une espèce de récompense éthique, mais ils doivent se trouver dans l'acte lui-même.
Ah, ça, c'est profond.
Voilà. Voilà, oui, Wittgenstein. Eh bien, voilà, merci.
C'est ce qui conclut notre émission. Merci, David, pour tes citations tellement pertinentes.
Tellement. Merci, ça me fait plaisir.
Je remercie Gab Paquette qui a composé la musique thème de l'émission. Remercie encore une fois David, notre libraire et notre hôte. À tous mes invités, Olivier Saint-Pierre, Emmanuel Gay, Antoine Verret-Lemelin, Coroner Paradis et Alain Deneau. Merci à Anaëlle, à la mise en onde. Et bien sûr, merci à Big Nick, sans qui rien ne serait possible, car c'est lui qui nous accueille sur le site de Radio Fiat Lux. C'était La Voix de la Librairie, Québec.
Vous écoutiez La Voix de la Librairie, en rediffusion sur CKIA. Cette émission est disponible en balado-diffusion sur le site radio.fiatlux.tk.